que vous allez suivre est une rediffusion.
RFI. Grand reportage.
Grand reportage en Afghanistan. L'attaque de la maternité de Médecins Sans Frontières à Kaboul le 12 mai dernier a été très meurtrière. 24 personnes sont mortes, dont des mères et des enfants. L'attaque n'a pas été revendiquée. Les talibans ont nié toute implication. Tous les soupçons se portent maintenant sur la branche afghane du groupe État islamique, responsable de nombreuses attaques contre la minorité chiite du pays. La maternité se trouve dans un quartier de l'ouest de la capitale où vit la communauté Hazara. Reportage à Kaboul de Shazaï Bouala et Sonia Ghezali.
Un masque à oxygène sur le visage, les yeux d'Amena se ferment lentement sous l'effet de l'anesthésie. Au-dessus d'elle, des formes en ouate verte, blouse, bonnet, chaussons, masque et gants s'activent. Son corps est minuscule sur la table d'opération. 51 cm. Amena n'a que quelques jours. Elle est entrée au bloc opératoire 8 heures après sa venue au monde. Sa petite jambe droite est balafrée, l'arrière de sa cuisse trouée par la balle qu'un homme a tirée sur elle. L'homme qui a tué sa mère et qui, avec deux autres, ont pris d'assaut la maternité de Médecins Sans Frontières.
Première fois qu'on a pris au bloc, c'était le 13 mai, à 2 heures du matin. Après, on a fait la réparation de l'artère et de la veine. Et le lendemain, on a repris pour deuxième fois, c'est-à-dire le 14 mai. Et comme je vois depuis le 12 mai, aujourd'hui on est 17 mai, donc le résultat de l'intervention est satisfaisant pour moi et avec un meilleur et excellent résultat. C'est très bien. Excellent résultat. La difficulté de cette opération est... Il n'y en a pas assez d'expérience avec ces genres de plaies et des pathologies. Personne ne tire sur un bébé de 10 heures de l'âge. Et donc, sur littérature médicale, on n'a pas beaucoup de connaissances sur le niveau de technique de chirurgie.
Le docteur Najibou Labina est soulagé.
Very good news.
Yeah.
Que de bonnes nouvelles.
En fait, avec la famille et puis avec les amis de famille, on a baptisé la petite, on l'a nommée Amena. Amena, c'est une femme forte dans l'histoire d'Islam. Et donc, elle a vécu, donc on voulait qu'il s'appelait Amena.
Avec son équipe, le chirurgien cardiaque à l'Institut médical français pour les mères et les enfants, créé par l'association La Chaîne de l'Espoir, change ce jour-ci les pansements de ce nourrisson blessé par balle. Il découvre les résultats de l'opération qu'il a réalisée quelques jours avant, dans la plus grande incertitude et sous le choc.
Bon, j'ai vécu beaucoup de guerres en Afghanistan. J'ai fait mes études en Afghanistan. J'étais interne dans les services. On recevait beaucoup des victimes de guerre. Mais une pathologie comme ça, c'est la première fois que je vois dans ma vie. Et pour ça que c'est à la fois c'est très choquant et à la fois un grand challenge pour moi et aussi pour l'équipe. Mais heureusement, on s'en sort bien. Et là, la jambe de la petite, elle est devenue le symbole de résistance de Dasht-e-Bakhchi et de Kaboul. Pour tout le monde. Comme le résultat pour l'instant est très 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 satisfaisant, je suis très très optimiste qu'elle va marcher un jour. Je ne sais pas, je ne peux pas te dire quand, mais je peux vous dire qu'elle va marcher comme vous, comme moi et tout le monde. Et je suis sûr que elle est très forte et elle va venir une très 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 belle avenir.
Après moins d'une heure dans la salle de réveil, Amena retrouve son berceau dans la chambre qu'elle partage avec d'autres enfants en bas âge, hospitalisés. Son père se penche à son tour sur elle et sur sa jambe, emmaillotée dans des compresses et maintenue dans une attelle ajustée et rembourrée de coton fabriqué par les soignants.
Je n'ai pas encore pu la tenir dans mes bras à cause de ses blessures.
Il n'ose pas la toucher, ému.
Je ne m'attendais pas à ce que sa jambe soit sauvée, mais les médecins ont fait beaucoup d'efforts. Ils ont pu l'opérer et sauver sa jambe. D'autres hôpitaux nous ont dit que sa jambe serait amputée. Heureusement, elle ne l'est pas, Dieu merci. Je suis heureux pour ça. Je pourrai la prendre bientôt dans mes bras. Je suis son père. Sa mère a été tuée 2 heures après lui avoir donné la vie. Elle n'a pas vu sa mère. Sa mère ne l'a pas vue non plus. Elle n'a même pas eu l'occasion de l'allaiter ou autre chose. C'est ma sœur qui l'allait. Quand elle lira mieux, je la prendrai plusieurs fois dans mes bras.
À Dashtebarchi, le quartier est toujours sous le choc. Situé dans l'ouest de Kaboul, la population ici est majoritairement issue de la communauté Hazara, la minorité chiite en Afghanistan. Les trottoirs sont défoncés, la poussière est partout, alors que les étals de fruits et de légumes se succèdent sur le bord de la route. C'est là que Médecins Sans Frontières a créé une maternité en 2014. Un établissement reconnu pour la qualité de ses soins et de son personnel médical. Personne n'imaginait que les balles siffleraient ici, que le bruit des grenades qui éclatent retentirait. Pourtant... Quelques minutes plus tard, les forces spéciales afghanes arrivent devant le portail bleu turquoise de l'hôpital et évacuent les premières victimes, des patientes, des femmes en pleurs, des nourrissons couverts de draps blancs tachés de sang. Le directeur de l'hôpital public a survécu en se cachant sous la dalle d'une structure en bois attenante à son bureau. Il a couru s'y réfugier alors qu'un premier homme armé ouvrait le feu à l'entrée.
Il a d'abord tiré sur le gardien et les gardes au premier portail. Il a réussi à le passer et il est directement allé du côté de Médecins Sans Frontières.
Sur un banc, dans sa tenue de travail verte, Abdul Habib est toujours sous le choc.
Il ne nous est jamais venu à l'esprit qu'un homme puisse venir ici tirer sur une femme qui accouche ou qui allait son bébé. Jamais je n'ai imaginé que cela puisse arriver.
Il se trouvait dans la maternité quand l'attaque a commencé. Il a pu trouver refuge avec d'autres soignants dans une pièce sécurisée, avant de pouvoir en sortir, une fois les assaillants abattus par les forces de sécurité.
Quand nous sommes sortis, nous avons vu cette mère, morte, laissée là sur le sol, et leur bébé qui pleurait dans les lits et les couveuses. Certaines ont été tuées alors qu'elles allaitaient leur bébé. Les bébés pleuraient. Tout cela, c'est de l'acharnement, c'est un choc terrible. C'est frustrant et c'est très douloureux. C'est intolérable. À chaque fois que j'y pense, je pleure.
Malgré le choc et le traumatisme, Abdul Habib est revenu au travail dès le lendemain, comme la cuisinière d'une cinquantaine d'années. Ils échangent des regards bienveillants, se soutiennent moralement, même si ce 12 mai les hante.
Quand on est sorti dans le couloir, nous avons vu le corps de l'agresseur, le corps de notre collègue complètement brûlé. Nous avons vu 2 voitures brûlées, les forces de sécurité partout. Au fur et à mesure qu'on avançait avec eux, on voyait d'autres morts dans les différentes pièces. Partout où on allait, il y avait des corps de mer, des corps humains, des endroits brûlés. On voyait un carnage.
19 nourrissons ont été évacués vers différents hôpitaux de Kaboul. 16 ont perdu leur mère, tués dans l'attaque. Plusieurs bébés ont été hospitalisés à l'hôpital Atatürk, qui jouxte l'Institut médical français pour les mères et les enfants. Dans les berceaux, certains ont attendu plusieurs jours que leur père vienne les chercher. Ces derniers, occupés à enterrer leurs épouses assassinées, sans avoir eu le temps de voir à quoi ressemblait leur progéniture.
Comment va ce bébé ?
Il va bien, son état s'est amélioré. On attend juste que sa famille vienne le chercher et il n'a pas de problème de santé.
Il pleure beaucoup ?
Oui, il pleure beaucoup. On ne sait pas pourquoi. Il n'a aucun problème de santé. Quand on le prend dans nos bras, il se calme et quand on le remet dans son lit, il pleure.
Les infirmières confient cajoler autant qu'elles peuvent ces nourrissons privés de leur mère dans des circonstances atroces. Dans la pièce voisine, plusieurs hommes feuillettent et étudient un registre alors que des hommes défilent les uns après les autres, les traits tirés.
Monsieur, c'est votre pièce d'identité. Quel était le prénom de votre femme ?
Nourzia.
Quand vont bébés sont nés ?
3 jours avant l'attaque. Ils nous ont dit qu'elles étaient très faibles, c'est pour ça qu'elles sont restées à l'hôpital.
Atikula est venue récupérer ses jumelles, sa pièce d'identité plastifiée et celle de sa défunte épouse dans les mains. Les deux bébés sont posés côte à côte sur le bureau. Il a à peine le temps de les observer au milieu d'une horde de journalistes, d'inconnus, disant vouloir aider, de personnel hospitalier curieux.
Mon frère, descends au rez-de-chaussée. Ils vont te donner des colis pour t'aider.
Atikula quitte la pièce et s'engage dans le couloir de l'hôpital. L'une de ses filles dans ses bras, l'autre portée par son frère. Il avance d'un pas lent, hagard. Derrière eux, un jeune père Hazara, sa fille de quelques jours dans les bras, dans une barboteuse rose, suit le même chemin, secoué de tremblements. Dans le couloir, l'onde de choc semble ne pas s'arrêter, ainsi que l'incompréhension. Des pères se présentent, mais leurs documents d'identité, la description de leur épouse, ne correspondent pas aux informations qui figurent dans le registre.
Ma nièce est née ici. Ma nièce a été tuée. Elle est allée dans cet hôpital qui est bien équipé et qui a de bons docteurs. Le bébé est né là-bas et il était trop faible. Les docteurs ont dit qu'elle devait rester jusqu'à ce qu'elle atteigne 2 kilos et qu'après elle pourrait sortir. Elle a passé 9 jours là-bas. Le 10e jour, ma nièce était au téléphone avec son mari quand des hommes armés sont entrés. Ils lui ont tiré sur le visage et dans les mains. Elle est morte là-bas.
En retrait près du mur, le visage baissé, Abdoulatif est comme absent. Il ne réalise pas qu'il doit encore se battre pour retrouver son enfant.
Elle était au téléphone avec moi. Elle m'a dit que des hommes armés étaient entrés dans l'hôpital. Elle m'a dit, on est tous dans une chambre, les enfants sont dans une autre chambre, fermée à clé. Ils étaient tous dans une chambre fermée. Pourquoi est-ce que mon bébé est perdu maintenant ? S'il était avec sa mère, il aurait été tué aussi.
Les membres du comité composé de personnel de Médecins Sans Frontières, de l'hôpital public des 100 lits, du ministère de la Santé, ainsi que des représentants locaux sont catégoriques. Abdoulatif doit aller trouver son bébé dans un autre hôpital car ses informations ne correspondent pas à celles du bracelet, du nourrisson ni à celles du registre.
On va aller maintenant dans un des 2 autres hôpitaux qu'ils nous ont mentionnés. Si nous arrivons à trouver le bébé, c'est bien. Si nous n'avons pas pu le trouver, alors nous reviendrons ici. Sa mère a été tuée. Où est cet enfant maintenant ? Je veux le retrouver.
Quelques jours plus tard, pourtant, c'est bien ici, à l'hôpital Atatürk, qu'Abdoulatif récupère à son fils. Des jours d'incertitude et d'angoisse ajoutés au deuil. Abdullah a vécu la même chose, mais il repart soulagé, sa fille au creux de ses bras.
Nous avons couru partout pendant 4 jours pour la retrouver. J'ai enfin réussi à la récupérer avec des représentants et les documents. Sa mère est morte.
L'organisation Médecins Sans Frontières sous le choc, poursuit néanmoins sa mission. Elle est indispensable, a martelé Zahra Khochizad, une sage-femme qui a survécu à l'attaque du 12 mai dans un discours prononcé en marge de la 73e Assemblée mondiale de la santé des Nations unies.
As a midwife, we bring new life into this country.
En tant que sage-femme, nous amenons de nouvelles vies dans ce pays, dans des conditions parmi les plus difficiles au monde. À Genève, 5 femmes sur 100 000 meurent en couche. En Afghanistan, ce chiffre grimpe à 638. Et cela n'inclut pas les 16 mères qui sont mortes dans le service de maternité de l'hôpital dans lequel je travaillais ce funeste 12 mai. Les terroristes sont entrés dans un endroit où aucun homme n'est autorisé. Les maternités sont dans mon pays parmi les rares endroits où les femmes sont les leaders. Mais la semaine, elle a été cruellement attaquée. Ils ont pris d'assaut la maternité avec des grenades et d'autres armes, tuant des mères donnant la vie et des nouveau-nés. Ces faits doivent être inscrits dans l'histoire du monde. Les terroristes se battent contre des nourrissons qui n'ont qu'un jour et des femmes dans leur blouse d'hôpital. Leurs chefs doivent être fiers de célébrer leur victoire. Une victoire sur une armée de bébés d'un jour et de mères donnant naissance.
Ulcérée, effondrée, Zahra Khochizad refuse néanmoins de baisser les bras. Porte-voix des sages-femmes afghanes, pour elle et tant d'autres, le combat continue plus que jamais.
As midwives in Afghanistan are the silent leaders of this country.
Les sages-femmes en Afghanistan sont les leaders silencieux de ce pays. Nous sommes aux côtés des femmes enceintes qui donnent naissance à son avenir. Sauvegarder une maternité comme la mienne, c'est sauvegarder le futur de ce pays aux côtés des sages-femmes, comme notre Mariam, morte en martyr, qui se tenait aux côtés des femmes enceintes. En se sacrifiant, Mariam a montré au monde entier ce que signifie vraiment d'être sage-femme en Afghanistan. Nous chantons une chanson. Omer, vous n'êtes pas seule. Nous sommes avec vous. Aujourd'hui, ces mots prennent tout leur sens.
In Afghanistan, we midwives sing songs that say, you mothers are not alone. We are with you. Now I feel it's full of deep meaning.
Après l'attaque de la maternité de MSF à Kaboul, un grand reportage de Shaza Ibouala et Sonia Ghezali, réalisation Pierre Chaffangeon.